Divergence FM, l'interview.
Alors bonjour Marion Lessac et Franck Aubertin. Je prononce bien vos noms?
Bonjour, c'est parfait.
Parce que des fois, vous savez, on écorche un peu les noms. Alors, première chose qu'il faut savoir pour les auditeurs, on est au téléphone, hein, vous n'êtes pas dans les studios pour les raisons qu'on connaît, et on vous interviewe, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, vous faites partie d'une société qui considère un petit peu ses employés comme des Kleenex. C'est un peu ça, et vous êtes là pour les défendre, puisque vous êtes membre d'un syndicat. Ce syndicat, c'est Sud, hein, nous sommes bien d'accord, c'est Sud Solidaire aussi, hein, vous avez une union syndicale. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde de la chimie, du côté de Sanofi? Nous, de l'extérieur, hein, on comprend qu'il y a beaucoup d'argent, et puis il y a une variable d'ajustement qui semble être la plus simple, c'est les salariés. C'est un peu ça, non?
Oui, c'est un petit peu ça. Donc nous, juste pour nous présenter rapidement, on est sur un centre de recherche et développement à Montpellier. Et donc on est victime, comme toutes les entités du groupe, de mesures d'économie qui sévissent depuis plus d'une dizaine d'années dans le groupe Sanofi. Donc en gros, comme vous le disiez, comme ils n'arrivent pas à augmenter leur marge par la mise sur le marché de produits innovants, leur seule variable d'ajustement, c'est de diminuer toujours la masse salariale pour faire des économies. Donc on est dans des processus d'économie qui ne cessent jamais. Là, on vient de terminer un plan social au mois de décembre dans la recherche et développement, et on en commence un nouveau au mois de janvier. Donc ça ne s'arrête jamais, et alors qu'on est une entreprise qui fait des milliards de bénéfices, qui se porte très bien, et qui a reversé en 2020 4 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires, et qui s'apprête à faire encore mieux en 2021.
Ah bah tout le monde...
À augmenter les dividendes.
Voilà, on peut dire qu'il y en a qui sont heureux, et puis c'est sur le dos des autres, c'est un peu ça. C'est un peu le système capitalisme d'ailleurs, hein. Quand tout va mal... on trouve le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est qui? Eh ben, c'est les salariés, évidemment, vous savez bien. Vous coûtez trop cher. Les charges sociales, tout ça, ça coûte très très cher. Alors que de l'autre côté, ça coûte pas cher. Par exemple, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'interpelle. Alors, celui qui veut répondre, ou celle qui veut répondre, c'est l'argent qui est injecté par notre État dans la recherche. Ça va vraiment dans la recherche?
Alors aujourd'hui, non, ça, on ne pourrait pas dire que ça va dans la recherche. Donc il faut savoir quand même que Sanofi, c'est 36 milliards de chiffre d'affaires. Pour cette année, c'est 12 milliards de bénéfices. Et tous les ans, c'est environ 150 millions de crédit impôt recherche ou crédit impôt compétitivité emploi.
Voilà, c'est ça.
En 10 ans, c'est 10,5 milliards de crédit impôt versés par l'État sans aucune contrepartie de l'autre côté. C'est-à-dire, on pourrait croire que, par exemple, l'État français donne du crédit impôt recherche afin que Sanofi investisse dans sa recherche.
Ça semble logique. Ça semble logique.
Ça semble très logique. On pourrait même croire que Sanofi, que l'État aurait un regard sur les axes thérapeutiques que Sanofi ferait grâce à cet impôt recherche, ce qui n'est pas le cas du tout, car aujourd'hui, Sanofi arrête des axes thérapeutiques majeurs et continue à empocher le crédit impôt recherche. Ça va même plus loin, car M. Beaugilot, le président France de Sanofi, sur la radio dernièrement, a complètement fait un chantage en disant que si l'État arrêtait le crédit impôt recherche, la recherche en France serait en danger, serait en arrêt.
Oui, je comprends bien. Alors, et c'est là qu'il a cité d'ailleurs sur une de nos radios nationales, si j'ai bien compris, France Info, pour ne pas la citer, qu'il y a des salariés qui ne sont plus nécessaires. Alors ce mot est quand même extraordinaire. Alors avant, il y avait des salariés qui étaient nécessaires et maintenant ils ne sont plus nécessaires.
Voilà, mais en fait, il faisait allusion aux salariés qui sont sur les anciennes plateformes de recherche, comme nous par exemple. Nous, on est sur une plateforme de recherche qui est ancienne. On est là depuis 1972, donc on s'est senti évidemment concernés. Et il a considéré que maintenant, Sanofi prenait le virage de technologies innovantes, de biotechnologie, etc., et que tout ce qui était l'ancienne chimie, donc et la recherche sur les molécules chimiques et les salariés qui travaillaient sur
cette recherche, oui, tout simplement.
N'était plus nécessaire, donc c'est le mot qui a été employé et qui est très très blessant et choquant pour les salariés. Quoi.
Bah, c'est très blessant, moi j'ai trouvé ça quand même incroyable de pouvoir dire ça. On peut comprendre comme quand une entreprise est en difficulté financière, hein, on peut très bien comprendre qu'il faut faire du redressement, hein, etc. Mais là, vous avez cité des chiffres tout à l'heure, c'est quand même impressionnant quoi, quand vous faites plus de 7 milliards de résultats nets après impôts, bah, je sais pas, il reste pas petit quelque chose pour les salariés, non ? Je sais pas, je vais me poser la question. C'est vraiment délicat, quoi. Hein. Alors, au niveau des suppressions d'emplois, je crois que vous avez dit que c'est dans l'ordre de 400 personnes hein, en France, hein, c'est ça ? Je ne me trompe pas ?
Alors, oui, ce nouveau plan de suppression d'emplois concerne 400 chercheurs,
oui.
À savoir qu'en 2019-2020, il y avait eu un autre plan social, c'était 300 chercheurs.
Donc ça fait beaucoup de monde qui s'en va et pendant ce temps-là, la recherche donc prend du retard. Non enfin, je suis bête, hein, je suis comme un citoyen lambda. En fait, quand on a parlé des plans là pour financer la recherche, c'est notre argent, donc c'est le mien comme le vôtre. Hein, nous sommes bien d'accord. Hein, c'est l'argent du contribuable.
Qu'on met... Ah ben complètement. Nous, on fait le lien direct avec les plans sociaux, c'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que les plans sociaux chez Sanofi sont payés par nos impôts. Ouais. Il faut savoir quand même qu'il y a 10 ans, on était 6500 chercheurs en France.
Ah oui.
Et avec ce nouveau plan social, on va être à 3000.
Donc on réduit... Bah, excusez-moi, mais je vous laisse parler, excusez-moi.
Ouais. Oui, c'est une réduction des effectifs continuels. Les plans sociaux, alors avant c'était tous les 2-3 ans, maintenant c'est pratiquement tous les ans. Un autre chiffre intéressant, c'est-à-dire il y a 10 ans, on était 11 centres de recherche.
Oui.
Avec ce nouveau plan, et s'il y a fermeture du centre de recherche de Strasbourg, nous ne serons plus que 3 centres de recherche en France.
Ah oui, c'est quand même un peu bizarre. Le citoyen lambda, hein, comme je suis, l'auditeur, il se dit, mais Sanofi, c'est une énorme boîte, ça doit marcher super bien, on voit qu'ils font. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on réduit la voilure tout le temps. Alors, on a du mal à comprendre parce que je croyais que c'était... Vous faisiez partie des gens qui étaient les plus innovants dans la recherche. Enfin, je crois, hein. Mais arrêtez si...
Alors, ce qui marche très bien chez Sanofi, c'est l'aspect finance. Mmh. Comme vous avez pu le voir, les bénéfices, ils sont entre 35 et 40 milliards chaque année. Les dividendes reversés aux actionnaires ne font qu'augmenter depuis 15 ans. C'est une augmentation, ça augmente en permanence. Mmh. Même pendant la période de pandémie où il y a eu des grosses difficultés dans toutes les entreprises, sauf à Sanofi, il n'y a eu à aucun moment... l'idée de diminuer, voire de supprimer les dividendes pour les actionnaires. Mmh. Donc de ce côté-là, côté finance, ça fonctionne très bien. Par contre, côté recherche, développement et innovation, ben, on voit que ça ne marche pas si bien que ça. Il n'y a pas de médicaments innovants qui viennent sur le marché. Mmh. Et au niveau du vaccin, comme vous pouvez le savoir, Sanofi n'a rien à proposer.
Sanofi a eu des petits problèmes, en effet, on a compris pour ces vaccins. Enfin, nous on n'est pas chercheurs, hein, mais on a compris que vraiment, ça, on dirait une mécanique grippée, au niveau de la recherche et de l'innovation, d'un côté. Et puis de l'autre côté, on dirait que vous travaillez dans une banque.
Oui, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Sanofi, à mon avis, rêverait d'une société sans salariés.
Robotisée à mort.
Alors, robotisée, je ne sais pas, mais en tout cas, sans salariés directs, à coût très réduit, afin de faire plus de profits qu'ils n'en font aujourd'hui.
La sous-traitance aussi, ils doivent rêver de ça, d'avoir des chercheurs qu'on emploie, un peu comme des auto-entrepreneurs aussi, pourquoi pas, pendant qu'on y est.
Oui, alors c'est ce qu'on vit nous aujourd'hui à force de plans sociaux, c'est de voir la sous-traitance grandir sur nos sites. Donc il y a une perte de sens pour les salariés en interne qui perdent leur activité et qui, en fin de compte, du jour au lendemain, deviennent ce qu'on appelle donneurs d'ordre, gérants
d'une
sous-traitance sur leur propre activité, mais juste à gérer des contrats, en fin de compte, et ne plus être dans les labos à faire de la recherche.
Eh ben, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Alors, bien entendu, vous en doutez, vous pourriez parler pendant des heures, hein, puisque vous êtes dans le cœur de ce qui se passe. Mais bon, déjà, ça donne aux auditeurs une petite idée. Puis surtout, on va faire un article là, dans notre site à nous pour renvoyer vers vous, pour que les gens puissent s'informer de façon plus importante qu'ils l'auront été en quelques minutes d'interview téléphonique. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu sur Divergence FM. Divergence FM, c'est une radio au cœur de Montpellier, et il est plus que normal qu'on s'occupe un peu de nos grands... des emplois sur Montpellier, enfin, il me semble. Et puis, nous, on n'est pas obligé d'avoir la vision patronale, hein, pas du tout.
Au-delà du constat, si on peut aussi avoir quand même des perspectives, parce qu'on dresse un tableau qui est assez négatif.
Oui.
Mais nous, on pense qu'il faudrait, on pourrait collectivement se demander, nous les citoyens, de quelle industrie pharmaceutique on a besoin. Est-ce qu'on veut que les médicaments soient une marchandise, un produit financier, ou est-ce qu'on veut une industrie pharmaceutique au service des patients et de la santé publique? Donc nous, on a la réponse, on pense qu'il faut... retirer le médicament du système capitaliste.
Oui, c'est ça, c'est le problème du brevet sur la nature, on peut dire, ou sur les produits qu'on fabrique. Le brevet sur le médicament, c'est quand même extraordinaire. Bon, écoutez, on ne va pas pouvoir parler plus longuement, parce que c'est un aparti au niveau du temps, mais en tout cas, merci beaucoup, et puis j'espère que les auditeurs de Divergence ont bien ouvert grandes leurs oreilles, parce que c'est à côté de chez eux, hein. Vous êtes toujours du côté de Celle-Neuve, hein, c'est ça?
C'est ça, voilà. On est entre Celle-Neuve et la Mosson.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bien des choses. Et puis, comme on dit, restons positifs. Hein, raison positive, vous savez, peut-être qu'un jour, la roue va tourner. Peut-être.